quotidien avec Hélène Denis.
Bonjour, bon mercredi 29 octobre 2025. C'est Hélène Denis qui est avec vous, bien entourée. Mathieu est là. Il y a Serge qui est en train de regarder ses nombreuses feuilles. Serge, vous allez parler de quoi aujourd'hui?
Bien, imaginez-vous qu'il y a 30 ans, c'était le fameux référendum, le deuxième référendum
sur la souveraineté. On en parle beaucoup là, dans l'actualité,
oui,
évidemment.
Oui, oui, oui. Mm-hmm.
Alors, vous avez choisi de nous en parler.
Exactement, oui. Puis je vais avoir un livre à vous recommander que j'ai lu il y a quelques années, très, très, très intéressant.
Sur le sujet?
Oui, oui. Oui. Okay. C'est-à-dire sur le... Qu'est-ce qui se serait passé si Louis avait gagné?
Oui, il a failli gagner.
Oui, d'ailleurs, ouais. Ça, ouais.
Merci, Serge Bradet. Isabelle Falardeau est chez elle, mais elle est avec nous aussi. Vous avez préparé un sujet après les patates, la bière.
Ben oui, c'est un peu dans la même catégorie, hein, des choses qui nous font plaisir au cerveau.
Oui.
Et c'est ça, je vous parle d'un restaurant, un pub à l'allemande qui vient d'ouvrir à Montréal, où on peut boire de la bière et avoir une belle ambiance bavaroise.
Où à Montréal? Je suis déjà curieuse.
C'est sur la rue Saint-Hubert.
Ah, c'est pas loin de Canal M?
Sur la Plaza Saint-Hubert, donc un petit peu plus haut.
Oui, oui. Bon, bien, on va vous écouter dans les prochaines minutes. Isabelle, merci d'être là. Et on a aussi au menu des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette. Également, on va parler du spectacle. En fait, c'est un événement qui va durer 3 jours, Gauvreau, 100 ans. Est-ce que vous avez vu Gauvreau, vous, Serge?
Non.
Il est mort en 1971, très jeune, là, 45 ans. Mm-hmm. Et Dominique Bémarié, qui travaille au Jésus, et l'événement va se passer au Jésus, en fait, sur 3 jours. Elle est la directrice artistique de Gauvreau 100 ans. Elle viendra tout nous expliquer ce qu'il en retourne. Et Christiane Campagna, chargée de communication chez Bibliopresto, sera avec nous pour, nous présenter les ressources numériques qui sont offertes par nos bibliothèques publiques. On commence avec un bon vieux souvenir dont on ne se lassera jamais, en tout cas moi, mais je pense pas vous non plus. Elton John.
You ain't got a penny, sniffing for tips like you. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road.
Dans la presse plus à la une, c'est définitif, je ne reste pas ici. Au moins une centaine de praticiens préparent leur départ vers une province voisine. La presse s'est entretenue avec une médecin de famille indignée contre la loi 2 du gouvernement Legault qui a choisi de déménager au Nouveau-Brunswick. C'est un texte de Fanny Lévesque et de Marie-Ève Cousineau, une médecin de famille de 40 ans qui pratique à la fois sur la Côte-Nord et dans la région de Québec, pliera bagage au printemps pour donner des soins au Nouveau-Brunswick. Sa décision est sans appel. Elle ne sera pas la seule. Au moins une centaine de médecins préparent leur exode vers une province voisine. Moi, avec la loi 2, c'est définitif. Je ne reste pas ici, déplore au bout du fil l'omnipraticienne. Elle a demandé à ne pas être identifiée en raison de sanctions sévères prévues dans la nouvelle loi du gouvernement Legault, qui vient lier une partie de la rémunération des médecins à des indicateurs de performance. Le texte législatif prévoit des pénalités financières et des sanctions administratives pour les médecins qui se désengageront du régime public en guise de représailles. La colère gronde chez les médecins québécois depuis l'adoption sous bâillon de la loi 2, et ils sont de plus en plus nombreux à préparer leur exode vers une province voisine. Depuis le 1er octobre, 60 médecins ont demandé un permis de pratique en Ontario et 40 au Nouveau-Brunswick. Enquête sur des contrats municipaux, des éboueurs payés au noir avec les fonds publics. Texte de Vincent Larouche, toujours dans la presse. Les enquêteurs du bureau de l'inspecteur général de Montréal, le BIG, ont débarqué mardi chez un géant ontarien de la collecte de déchets dans le cadre d'une vaste enquête sur l'emploi de travailleurs au noir comme éboueurs dans la région métropolitaine. C'est ce qu'a appris la presse. En matinée, les enquêteurs se sont présentés à Châteauguay dans les locaux d'Environnemental 360 Solutions, E360S, une firme ontarienne qui a connu une croissance fulgurante au Québec et ailleurs au Canada ces dernières années, en rachetant plusieurs petits acteurs dans l'industrie et en remportant des contrats publics avec des soumissions parfois plusieurs millions de dollars moins élevées que celles de ses concurrents. Et puis, autre titre à la une de la presse, cohabitation avec l'itinérance, la révolte de citoyens, des voisins de refuge se tourne vers les tribunaux. Une avenue judicieuse, on pose la question. Des voisins de refuge pour sans-abri de Montréal se tournent désormais vers la justice pour, disent-ils, forcer les autorités à aider les plus vulnérables. Un reportage de Caroline Touzin et de Martin Tremblay. Et puis, on parle aussi de Pierre Lapointe à la une de la presse, qui est à Paris, entrevue avec Pierre Lapointe, qui a touché le cœur des Français. José Lapointe est sur les lieux. Pierre Lapointe, c'est 20 ans de présence assidue et continue en France. Mais en 2025, sa carrière a connu le boom qu'il espérait depuis longtemps. « Je me retrouve avec la bonne équipe et le bon album. C'est vraiment un truc de bon moment », dit l'auteur-compositeur-interprète que nous avons rencontré au Café Beaubourg à Paris, à la mi-octobre. Et si on lit plus loin, c'est aussi un truc d'argent, de beaucoup d'argent, parce qu'il faut aller et retourner à Paris pour se faire de plus en plus connaître et apprécier. Quand il parle de son bon album, c'est le plus récent, en tout cas celui qui connaît beaucoup de succès un petit peu partout, notamment en France, et qui s'intitule « 10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé ». À la une du Devoir maintenant, on parle de santé des médecins qui font leur valise. Le Collège des médecins de l'Ontario enregistre une hausse des demandes d'agrément de médecins québécois. C'est un texte de Marie-Michèle Sioui. Pendant que le gouvernement Legault défend sa loi spéciale sur les médecins, le Collège des médecins de l'Ontario enregistre une hausse de demandes venant de praticiens québécois qui veulent traverser la frontière et qui commencent déjà à l'annoncer à leurs patients. Mélissa frappe la Jamaïque avant de partir vers Cuba. Le très puissant ouragan Mélissa a traversé mardi la Jamaïque, arrachant sur son passage toitures et arbres et provoquant des pluies diluviennes, ce qui fait craindre des dégâts considérables, et se dirige désormais vers Cuba, avec des vents soutenus se rapprochant des 300 km par heure, du jamais vu. L'ouragan alors de catégorie 5, soit la plus élevée de l'échelle de Saffir-Simpson, a frappé de plein fouet l'ouest de la Jamaïque à la mi-journée. Il s'agissait d'un des ouragans les plus puissants recensés et du pire à toucher la Jamaïque depuis le début des relevés météorologiques. Stéphane Lachance, En croisade contre le tramway, toujours à la une du Devoir. Le déraillement de ce projet à Québec serait encore possible, selon le chef de Respect citoyen. Peu importe le résultat du vote, Stéphane Lachance aura gagné en notoriété au terme de cette course rocambolesque à la mairie de Québec. Guerre commerciale, les tarifs de Trump menacent la presse américaine. Après le bois d'œuvre, les armoires de cuisine et le bois de meubles, Donald Trump s'apprête-t-il à imposer de nouveaux tarifs sur l'importation aux États-Unis de papier de journal canadien? Depuis le retour du président à la Maison-Blanche, la perspective angoisse le milieu de la presse écrite chez nos voisins et entraîne déjà une hausse des coûts de production d'un journal papier. Ces tarifs menacent même la survie de petits journaux indépendants, souvent l'unique source d'informations locales dans de nombreuses communautés urbaines et rurales, écrit Philippe Renaud dans Le Devoir. Et puis à la une du Journal de Montréal, la Jamaïque durement touchée, des vents de près de 300 km à l'heure. C'est vraiment désastreux. Cet ouragan appelé Mélissa fait des ravages. Inscrit pour pratiquer en Ontario et au Nouveau-Brunswick, déjà 100 médecins veulent quitter le Québec. Et une bonne nouvelle, après une défaite crève-cœur en 18 manches, les Blue Jays rebondissent. As-tu de la bière ici? Mathieu, vous qui avez habité en Allemagne, comment on dirait, y a-tu de la bière ici en allemand?
Haben Sie Ihr Bier?
Pardon?
Haben Sie Ihr Bier?
Merci. Danke schön. Isabelle, Oktoberfest, mais vous parlez d'un resto, là, un bar qui s'est ouvert à Montréal.
Oui, tout à fait. Donc, et le nom, c'est Wunderbar, et Mathieu va pouvoir nous dire ce que ça signifie en
Bienvenue.
Allemand.
Wonderful.
Ah, wonderful.
Oui, voilà, merveilleux, wonderful, wunderbar. Et donc, c'est ça, c'est sur la Plaza Saint-Hubert. 30 ans après la disparition du gigantesque bar bavarois Le Vieux Munich, si vous vous souvenez,
c'était
sur René-Lévesque, coin Saint-Denis, qui était devenu le Medley après sa fermeture. Après la fermeture du Vieux Munich, moi j'étais déjà allée, c'était vraiment chouette. Alors,
les gens nous servaient en hot pan, les serveurs et serveuses. Mais c'est surtout, c'est-tu des gars qui étaient là, me semble?
Surtout des serveuses.
Oui.
Donc, on buvait les bières dans les beaux bocs traditionnels. C'était vraiment, vraiment chouette. L'ambiance était très festive. Ceux qui n'étaient jamais allés en Bavière avaient l'impression de se retrouver un petit peu en Allemagne. Donc, ça donnait une belle ambiance. Et donc, le propriétaire trouve ça étonnant. Il ne s'explique pas pourquoi il n'y a pas d'autres tavernes bavaroises au Québec, parce qu'apparemment, c'est le premier. C'est la première taverne bavaroise depuis la fermeture du Vieux Munich. Mais moi, ce que j'ai appris dans cet article-là, saviez-vous que le concept du jardin de bière à l'allemande, c'est ce qui a été le déclencheur de l'amour des Québécois pour les terrasses à la fin des années 1960.
Ah, non, ça va
oui,
pas.
Oui, pour la petite histoire, Montréal interdisait la consommation d'alcool en plein air jusqu'à ce que les Québécois aient le coup de foudre pour le jardin de bière du pavillon de l'Allemagne à l'Expo 67.
Ah.
Et donc, Montréal a pas tardé à modifier son règlement et les terrasses sont rapidement devenues sa marque de commerce. Donc, s'il n'y avait pas eu cette Expo 67, bon, on aurait sûrement fini par avoir des terrasses, mais ça aurait peut-être pris un peu plus de temps. Et c'est vraiment le jardin de bière bavarois qui nous a inspiré cette idée-là. Et donc, c'est ça, là, on nous parle de ce jardin à bavarois. La fiche de devanture n'est pas encore là parce que c'est encore en rodage, mais déjà, le public abonde dans sa grande salle chaleureuse. Le vacarme des voix est assourdissant tellement qu'on n'entend pas la musique. Et donc, ce fameux créateur, donc propriétaire, concepteur, mais aussi décorateur, c'est Anthony Jodoin. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la Taverne Cobra,
non.
Au Snowbird Tiki Bar,
non.
Au Spaghetti Western ou au One Punch Mickey's.
Mais ça manque à ma culture.
Donc, alors, respectivement, un bar karaoké, un Tiki Bar, on voit l'inspiration hawaïenne, le Western Spaghetti qui est un bar country et le One Punch Mickey's, une taverne irlandaise. Donc, ce sont tous des endroits qui ont été créé et décoré par Anthony Jodoin. Donc, lui, il dit « J'habite le quartier et tous mes bars sont à distance de marché. » Je suis allée voir, effectivement, là, il y en a sur la rue Saint-Laurent, Saint-Hubert. Pour plus de détails, là, le Wunderbar est sur Saint-Hubert, au coin de Beaubien, donc vraiment tout près du métro Beaubien. C'est vraiment super bien placé si vous voulez aller faire un tour.
Bien, pour ceux qui nous écoutent, les auditeurs de Montréal, évidemment. Là.
Oui, mais c'est ça. Et puis, c'est l'avantage de pouvoir rentrer en métro quand on a bu une petite bière, hein, parce qu'on ne veut pas prendre la voiture
mais
après.
Non. J'ai l'adresse exacte ici, le 6529 Saint-Hubert, mais vous avez parlé de bruit.
Oui, ben c'est ça, c'est qu'il y a tellement de monde qui parle qu'on n'entend pas la musique.
Ah, d'accord.
Donc, c'est que les gens sont très heureux.
Donc, c'est pas la place pour un tête-à-tête?
Bien, peut-être pas, effectivement.
Certainement pas.
mais vers 21h, on dit qu'il y avait déjà une file de gens en train d'attendre debout à l'entrée parce que les 150 places assises étaient occupées. C'est quand même beaucoup, 150 places assises. Et là, c'est pas fini parce que le propriétaire dit que les gens vont pouvoir voir le Wunderbar en train de se bâtir parce que le plus gros reste à faire. Donc là, pour l'instant, on a une belle salle avec 150 places assises. Mais il dit « Je vais continuer d'orner la grande salle, aménager une mezzanine intérieure qui sera comme une grande maison à colombage et ouvrir une terrasse sur le toit l'été prochain. » Donc, c'est pas fini. On n'a pas fini d'avoir l'occasion de boire des bières. Ça ne sera pas seulement des bières bavaroises, mais dans une ambiance bavaroise.
On annonçait la préouverture pour le 23 octobre. Alors, c'est fait depuis quelques jours à peine.
Oui, c'est ça. C'est vraiment tout, tout récent. On a rencontré, donc l'auteur, le journaliste a rencontré Adriano Bignetti qui dit « Nous sommes des sommeliers de bières. Nous voyageons partout en Europe pour déguster des bières et nous étions à l'Oktoberfest de Munich il y a un mois. » Et donc, ça leur fait vraiment plaisir de se rendre, lui et sa conjointe, Madame Rocha. Ils étaient là en tenue bavaroise. Et eux, ils disent qu'ils viennent du Brésil et à Blumenau, apparemment au Brésil, c'est le deuxième plus grand Oktoberfest sur Terre après Munich. J'ai trouvé ça intéressant d'apprendre ça aussi.
Mm-hmm.
Apparemment, il y a des comiques tableaux qui représentent David Hasselhoff et Pamela Anderson en tenue bavaroise, donc un signe que le bar ne se prend pas au sérieux. Et en terminant, également rencontré dans le bar, c'était le propriétaire de la Bretzellerie, mais qui s'écrit B-R-E-Z-E-L-L-E-R-I-E. Donc, c'est Philippe Jacob qui a fondé cette entreprise-là à Saint-Jean-de-Matan. Il prépare des bretzels artisanaux dont il fournit les bars. Ils sont presque cuits, mais pas tout à fait. Donc, ils finissent la cuisson sur place pour pouvoir les servir encore fumants, là, comme les bons vieux bretzels tout chaud. Donc, je pense que s'il était là, c'est parce qu'il va aussi fournir le Wunderbar. Donc, vous pouvez, en plus de consommer votre bière, consommer des bretzels traditionnels allemands.
Bien, merci pour ces informations. Un autre endroit où aller festoyer, pourquoi pas. Pour tous ceux et celles qui sont à l'écoute et qui aiment la bière, il y a une panoplie de bières, là.
Oui, c'est ça. Vous avez vraiment
à découvrir. Super. Et des bières, on passe aux pommes de terre ou aux patates?
Mais oui, en terminant, j'avais envie de vous dire ça parce que je suis tombée sur cet article-là sur 12 économies. Il y a tout le temps des articles sur les économies des circulaires et en ce moment, jusqu'à demain, c'est la dernière journée aujourd'hui, il y a un gros spécial sur les pommes de terre. Le sac de 10 livres est à 1,77 $ chez Super C.
C'est donné?
Ben c'est vraiment pas cher, donc vous pouvez faire une bonne pralée de patates frites avec ça. Et chez Provigo, si vous n'avez pas de Super C à proximité, c'est quand même à 3 $ pour 10 livres, c'est quand même un bon prix. Et si vous n'avez pas des bras pour transporter 10 livres, chez Métro, on offre le 3 livres à 99 sous. Donc, une bonne façon, c'était un petit peu un clin d'œil à ma chronique de la semaine dernière sur les pommes de terre. Et moi, tout après l'émission, je vais faire un Super C juste au coin de chez moi. Je vais aller m'acheter un 10 livres de pommes de terre.
Ah oui, j'espère qu'elles sont belles, qu'on ne veut pas s'en débarrasser.
Oui, c'est vrai. J'espère quand même que... Et qu'il en reste, hein, parce que parfois, on annonce un spécial, mais quand on arrive sur place, il y en a plus.
Oui, ça peut partir
vite.
C'est
une autre histoire.
Faites attention à votre dos, là.
Merci.
Alors, le référendum sur la souveraineté de 1995, on en parle beaucoup puisque c'est le 30e anniversaire cette année.
Mm-hmm. Exactement, 30 ans déjà, ça va vite. Ça va vite, mais on s'en rappelle. Ça a été marquant avec le référendum de 1980. Mais tout de suite en commençant, je vais vous recommander un livre qu'une amie m'avait prêté en 2015 à peu près. Là. C'est un livre qui a été publié en 2014 par Chantal Hébert et Jean Lapierre.
Mm-hmm.
Jean Lapierre, mm-hmm. malheureusement, qui est décédé aux îles de la Madeleine. Là, dans,
un accident d'avion, à l'âge de 59 ans. Il allait aux funérailles de son père.
Ben, oui, au hélicoptère.
Tragédie. Un petit avion.
Un petit avion. Et le titre, c'est « Confessions post-référendaires ». Les acteurs politiques de 1995 et le scénario d'un oui. C'est un titre assez long, là. Mais,
comme la question référendaire de 1980.
Oui.
Un peu moins long.
Ce qui est intéressant dans ce document, dans ce livre-là de 288 pages, c'est qu'ils sont allés voir, Hébert et Lapierre, ils sont allés voir le camp du oui et le camp du non.
En fait, une job de journaliste.
Oui. Et ils leur ont demandé le camp du oui. OK, le oui, si le oui avait gagné, qu'est-ce que vous auriez fait? On est allé voir le camp du non. Si le non, si le oui avait gagné, qu'est-ce que vous auriez fait dans les deux? Et c'est vraiment...
Ouais, c'est intéressant.
Oui, si vous pouvez le mettre la main dessus, là, ça vaut la peine de le lire. Évidemment, c'est des suppositions parce que le non l'a emporté, par très peu, mais l'a emporté. Alors, c'est sûr, mais c'était très logique. Puis écoute, c'est deux quand même personnes très... Chantal Hébert et Jean Lapierre, là.
Crédible.
Oui.
Rappelez-nous le titre.
Confession post-référendaire.
C'est toujours pertinent.
Oui. Et moi, évidemment, je me rappelle pas tout, mais c'est un livre qui m'avait vraiment pris, là, tu sais, m'avait vraiment passionné. Et entre autres, le moment où le... quelque chose qui aurait été très, très important. C'est sûr que le politique aurait joué les frustrations du Canada anglais, tout ça, mais un gros élément, comme toujours, je pense que c'est Robert Bourassa qui disait « Il n'y a rien de plus nerveux qu'un million de dollars ». Je pense que c'est Bourassa qui disait ça. Je pense que Robert Bourassa qui disait ça, oui. Alors, le monde des affaires aurait fait des pressions énormes sur le gouvernement fédéral, le Canada anglais, pour des négociations avec le Québec. C'est sûr qu'il y aurait eu une période où il y aurait du flottement, tout ça, tu sais. Mais il y aurait quelque chose qui se serait passé normalement. Parce que tu n'as pas le choix de. Quand un vote est remporté, même s'il n'est pas très fort, on l'a vu en Angleterre avec le Brexit, il faut que tu aies des négociations. C'est ça. Alors, si vous pouvez le lire, c'est vraiment. Mettre la main dessus, ça vaut la peine.
C'est non? publié aux Éditions de l'Homme.
Oui, exactement. Oui. Alors, donc, on va se replacer un peu dans l'époque. Là. Le référendum québécois de 95, tenu le 30 octobre 95, est le deuxième référendum portant sur le projet de la souveraineté du Québec. Il a été organisé par le gouvernement du Parti québécois de Jacques Parizeau, élu en 1994. Donc, un an après, lui, il fait le référendum. Il n'attend pas comme de 76 à 80, 4 ans avant de faire un référendum. Et en vertu de ce référendum, le gouvernement du Québec propose de faire la souveraineté du Québec et d'offrir formellement un nouveau partenariat économique et politique au Canada. Avec 50,58% des votes en faveur du non, la proposition est finalement rejetée. Point culminant de plus de 15 ans de débats constitutionnels entre le Québec et le Canada, ce référendum constitue un événement majeur de l'histoire contemporaine du Québec. Le camp du oui a obtenu 49,42% des voix. C'est 50 000 voix à peu près.
Alors,
s'il y avait simplement 25 000 voix qui étaient allées de l'autre côté, mais là, écoute, ça aurait été gagnant à 50 points... quelque chose, même pas un quelque chose. Là,
chaud.
Ah oui, non, c'est pas... Beaucoup de gens, d'ailleurs, disent, tant qu'à faire une souveraineté, il faut que ce soit peut-être chercher une certaine majorité. Le faire avec même pas 51% des voix, c'est un peu... en tout cas. Alors, si on se replace dans l'histoire, bien, en 80, le Parti québécois dirigé par René Lévesque tient un référendum sur l'avenir du Québec. Ça vise à obtenir un mandat de négocier l'indépendance politique du Québec accompagné d'un nouveau partenariat économique avec le Canada. Et bon, le non l'emporte à 59,6% des voix. À l'automne 80, le premier ministre Trudeau annonce son intention de rapatrier la Constitution. C'était son obsession, parce que Trudeau, de rapatrier la Constitution. Alors, la Cour suprême du Canada refuse de laisser au gouvernement du Canada le pouvoir de rapatrier seul la Constitution. Alors, cependant, elle accepte que le rapatriement s'effectue avec l'appui des provinces. Elle n'exige pas l'unanimité, mais un nombre substantiel. Un nombre substantiel, ça veut dire quoi? Bien, peut-être pas 50 %, mais au moins peut-être, je sais pas, 60, 65, 70 %, tu sais, aller un peu plus. Alors, en novembre 81, le gouvernement du Canada obtient l'accord de 9 provinces sur 10, à l'exception du Québec, qui refuse le rapatriement et qui juge que la nouvelle Constitution affaiblit ses pouvoirs par rapport à la Constitution de 1867. Et malgré ce refus, la Constitution est rapatriée puis signée en avril 1982. Évidemment, le Québec l'a en travers de la gorge. Ça reste, comme on dit, expression populaire, tu sais, on ne l'a pas digéré, celle-là. Alors, arrive en 1984 le Parti conservateur de Brian Mulroney, qui lui promet, la phrase célèbre, là, de rapatrier le Québec dans la Constitution avec honneur et dignité. Ah, évidemment, c'est un beau programme et on se met à faire des... évidemment, avec cinq conditions, en répondant aux cinq conditions minimales posées par le Québec, reconnaissance de son statut comme société distincte et posée par le Québec, notamment la reconnaissance d'un statut comme société distincte, c'est ça, et l'élargissement de plusieurs pouvoirs. Mais par contre, Mulroney n'a pas réussi à obtenir l'appui de toutes les provinces canadiennes. Et il y a eu un accord, mais malheureusement, le Manitoba, Terre-Neuve et le Nouveau-Brunswick ont refusé d'appuyer l'accord. Parce que la grosse erreur, c'était on a signé l'accord, puis on a dit, bien, on vous donne 3 ans aux législatures provinciales pour le voter puis l'accepter. Évidemment, en 3 ans, il y a des changements de gouvernement. Il y a du grenouillage qui s'est fait par les libéraux fédéraux qui n'étaient pas contents.
Trois ans, c'est long en politique.
C'était très long en politique. Hey, t'sais, fait que, alors, c'est ça. Ça a été refusé. Ils ont refait... OK, je continuerai tout à l'heure avec l'accord de Charlottetown.
Oui, dans 10 secondes. Ben, on vient après la pause avec Serge Isabelle qui est là aussi pour parler du référendum sur la souveraineté qui a 30 ans cette année.
Vous pouvez au quotidien avec Hélène Denis.
Tant pis pour elle. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle, qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel, moi le bleu de tes yeux et toi le dieu de mon ciel, quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle, que celle que tu aimes. Bordel, hésitation à terme, c'est moi que tu aimes, t'as donc plus besoin d'elle, c'est la fin de tes querelles, tes pluies torrentielles, elle pleuvait sur toi, moi je te donne des ailes, tu me donnes des ailes, et on s'échappe du système, que je vide de tes veines, jusqu'à ce que rien ne rappelle, regarde mes lèvres.
Tant pis pour elle, une chanson de Charlotte Cardin.
Merci beaucoup, Mathieu Tessier, à la mise en onde. Et Serge, vous poursuivez avec votre sujet du jour, le référendum qui a 30 ans cette année, le référendum, bien sûr, de 1995 sur la souveraineté.
Exactement, oui. Alors, j'ai terminé tout à l'heure avec l'accord du lac Meech. Alors, l'accord a été rejeté par des provinces. On n'a pas réussi à obtenir les votes aux assemblées législatives. Alors, Mulroney et Bourassa se remettent à négocier. Et là, ils arrivent à un accord à Charlottetown. Et ils disent, bon, ben, coudon, on va à ce moment-là...
Ils disent ça, ben, coudon.
Alors, c'est bon, on va tenir un référendum pour... le soumettre à la population canadienne. Et on le soumet, puis là, l'accord... Mais évidemment, il y avait eu beaucoup de pertes pour le Québec. C'était pas la même chose que Meech. Alors, c'était un accommodement. On avait mis de l'eau dans son vin, puis bon. Et là, le référendum s'est rejeté par 54,3% des voix au Canada et 56% au Québec. Alors, là, ça a été fini. On a enterré cette histoire-là. Et malheureusement, ben là, les élections fédérales s'en venaient. Et là, c'est le Parti libéral de Jean Chrétien qui est porté au pouvoir. Et en 94, au Québec, c'est le Parti québécois, dirigé par Jacques Parizeau, qui arrive au pouvoir. Et Parizeau, lui, a dit, moi, si je suis élu, je fais un référendum immédiatement. J'attends pas 4 ans. Parce qu'on fait le référendum, on fait la souveraineté, puis on gère durant 3 ans. On place ça, là, on organise ça. Parce que si on le fait en fin de mandat, ben il faut aller en élection, puis là, il y a bien des choses qui peuvent changer. Alors, pardon. Parizeau, au début, voulait faire le référendum au printemps 95. Alors, il avait été là en 94, alors printemps 95. Et, mais là, dans son entourage, au Conseil des ministres, ils ont dit, ben, un peu tôt, on peut-tu attendre un petit peu, une couple de mois? Alors, il décide de repousser ça à l'automne, en novembre 95. Et ce qui est accepté. Et là, il y a une coalition qui se fait avec... on essaie d'aller chercher différents appuis auprès d'autres partis. Évidemment, le Parti libéral, bien, il n'y a pas question. Mais le parti de Mario Dumont, à ce moment-là...
La DQ
accepte de se joindre à cette coalition-là. Et évidemment, il y a Lucien Bouchard aussi qui est dans ça avec le Bloc québécois à Ottawa. Alors... on a une entente et cette entente-là propose un projet commun. Dans un premier temps, cette entente donne à l'Assemblée nationale, d'une part, la capacité de proclamer la souveraineté du Québec après une victoire du oui, et la charge, d'autre part, d'offrir au Canada une proposition de traité sur un nouveau partenariat économique et politique qui vise notamment à consolider l'espace économique actuel de 1995. Alors, ce partenariat-là, c'est le scénario le plus souhaitable pour un divorce rapide. Puis on évoque à ce moment-là comme celui vécu par la Tchécoslovaquie en 92.
Un divorce à l'amiable, c'est ce qu'on souhaite.
Oui, en 92, c'est séparé en deux. Là, vous avez la République tchèque et la Slovaquie. Avant, c'était la Tchécoslovaquie, ils sont séparés en deux. Alors, à la veille du déclenchement de la campagne référendaire, le gouvernement Parizeau cherche à se mettre à l'abri du bouleversement... pouvant ébranler les marchés financiers, advenant la victoire du oui. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup rassuré à ce moment-là, parce que Parizeau était un financier, et Jean Campeau, son ministre des Finances, était également un banquier. Alors, le ministre Campeau met en branle un plan d'action de financement mettant à contribution Hydro-Québec et la Caisse de dépôt et placement. Ce plan permet de dégager, dans un premier temps, plus de 17 milliards de liquidités. À ce montant s'ajoute ensuite 2,5 milliards de la Banque Laurentienne, 12,5 milliards de la Banque nationale et 5 milliards du Mouvement Desjardins. Donc, avec un montant comme ça, tu peux laisser, tu dis, ben là, on laisse tomber la poussière.
On a un bon coussin.
Oui, c'est ça, on a un bon coussin, puis c'est sûr qu'il faut que quelque chose se passe, mais on est moins à l'abri du chantage économique, si vous voulez. Alors, la question posée le 8 septembre pour le vote en novembre, acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signé le 12 juin 1995? On est allé chercher également des appuis.
Est-ce qu'on dit qui a rédigé la question?
C'est le M. Parizeau, M. Bouchard. Oui, ils ont négocié Parizeau et Bouchard parce qu'ils ne s'entendaient pas à m'en donner les deux. Parce que lui, Bouchard vraiment, tenait vraiment une association, offrait un partenariat économique. Puis Parizeau était plus...
indépendantiste.
Indépendantiste, oui, plus strict. Là. Mm-hmm. Alors, ils sont au niveau des appuis, ils sont allés chercher la Centrale d'enseignement du Québec avec Laurent Pagé, le président de la Confédération des syndicats nationaux, CSN de Gérald Larose, président de la Fédération des travailleurs du Québec, Clément Godbout, et la présidente du MNQ, Louise Lorrain. Et évidemment, c'est une campagne, ça fait appel aux émotions de campagne électorale, même une campagne normale, tu sais. Même là, actuellement, municipale, tu sais, il y a un peu d'émotion qui se passe. Alors,
un peu beaucoup,
oui. Oui. Alors, le oui, sans slogan, c'était « Oui, ça devient possible ». Et le non, c'était le mot « séparation », mais coupé. Alors, « sépa, non, ration ». Ils l'ont coupé en deux. Alors, ils avaient joué un peu. Le camp du non, ben, ça, il y avait Daniel Johnson, chef du Parti libéral du Québec, et chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, et Jean Charest, chef du Parti conservateur, puis Jean Chrétien, premier ministre du Canada. Le oui, ben, c'était Parizeau, Bouchard, Dumont et toutes les associations. La campagne référendaire, maintenant, des petites choses qui ont été un peu... qui ont mal passé. Le premier, c'est Claude Garcia, président des opérations canadiennes et de Standard Life et président du conseil d'administration de l'UQAM, qui a dit lors d'une réunion fédéraliste, il dit « Il ne faut pas gagner le 30 octobre, mais il faut écraser. » Alors ça, là, ça a choqué beaucoup, beaucoup de monde. Même les fédéralistes ont été extrêmement mal à l'aise avec cette déclaration-là. Et vous avez aussi Laurent Beaudoin, président de la compagnie Bombardier, qui, lui, évidemment, a joué beaucoup du côté économique, ce qu'on fait toujours dans des questions comme ça, même les élections normales, là. Alors, au début de la campagne, ben, le camp du oui connaît des difficultés. L'option souverainiste est à 45, le non à 55. Et évidemment, c'est l'arrivée de Lucien Bouchard qu'on a mandaté. Ça, c'est Jacques Parizeau a accepté ça. Et que Lucien Bouchard devienne négociateur en chef. Bon, c'est un titre un peu vide, si on veut, mais ça a eu du punch, comme on dit.
Ah oui.
Et Bouchard
il releva... Il volait
à ouais. Et Lucien Bouchard releva son malade d'une terrible maladie. Il s'est fait amputer de la jambe.
C'est vrai.
Et c'était un... Chrétien avait dit...
La bactérie mangeuse de chair qui l'avait attaqué.
Jean Chrétien avait dit, si ça continue, les gens vont demander de les bénir. En parlant de Bouchard. Mais ça, c'est les déclarations de Chrétien, tu sais.
Ouais.
J'avais, c'était très imagé. Alors, la campagne, ben, c'est ça. Vous avez eu également aussi l'espèce de grand love-in à la place du Canada. Aussi, qui a dérangé ça beaucoup de gens, autant des gens
les
du oui
parties,
que du non.
Ouais.
Oui, oui, ça a dérangé
les
beaucoup
camps,
de gens.
Les deux camps, oui.
Oui. Alors, voilà.
Bien, il y a tellement de choses à dire. Mm-hmm. Je sais qu'il va y avoir une émission spéciale
oui.
Sur les ondes de Radio-Canada. Mm-hmm. Le référendum qui s'est déroulé le 30 octobre 1995. Mm-hmm. Donc, c'est demain, là, le 30e anniversaire.
Oui.
Et je rappelle le titre « Confession post-référendaire » du livre dont vous nous avez parlé avec beaucoup d'enthousiasme, Serge. « Les acteurs politiques de 1995 et le scénario d'un oui mm-hmm. » des entrevues avec Jean Chrétien, Paul Martin, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Mario Dumont, Jean Charest, Sheila Copps, Lucienne Robillard, Preston Manning et j'en parle.
Ils sont allés voir tout le monde.
Oui, c'est vraiment complet comme ouvrage.
Là, à 2014, on était loin de 95. La poussière était retombée. Mm-hmm. Puis là, c'était plus rationnel. Bon, il serait passé ça. Oui, c'est plate, j'aurais perdu. Mais bon,
il y avait quand même du recul. Là,
oui, c'est ça.
Quand du garder son esprit analytique, avoir un esprit plus analytique.
Alors, si vous mettez la main sur le livre, là, lisez-le.
Oui, aux Éditions de l'Homme. Mm-hmm. Merci, cher Serge. Et merci aussi, Isabelle.
Merci, à la semaine prochaine.
On salue Daniel Lachance qui nous écoute peut-être, qui sera avec nous, je le confirme, le 19 novembre pour une chronique sur Gino Vannelli.
L'exploréen attend son heure, quand le vent chaume les brochures. Un vampire, une nymphomane, s'envoie une orange incrédule. Là-bas, perché sur un terre-plein, l'étal est un peu taciturne. Sous la pluie fouette les colibets, charge le poète dans le mur. La la la, la 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 la, la la la, la. La 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 la. forge un dessin épormiable, des savates et puis des langages, fait la noirceur des Notre-Dame pour engendrer les batlames. Quelques heures louches sous la fenêtre, à la rescousse des solitudes, une fée baroque ne peut renaître. Une ode automate tout bascule. La la la, la 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 la. Fleur sauvage se défenestre, reprend racine sur le pavé, ses entrailles enfin mises en scène, la boule du rideau est tombée. La la la, la 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 la, 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 la.
Alexandre Béliard, poète éporméable. Il s'agissait bien sûr de Claude Gauvreau. Le Jésus, centre de créativité, est très fier de produire un événement qui rend hommage justement à Claude Gauvreau, écrivain, poète, dramaturge hors normes, que certains qualifient de visionnaire, qui aurait eu 100 ans cette année. Il est né le 19 août 1925. Gauvreau, 100 ans, c'est un événement et c'est la directrice art et développement du Jésus qui est à la tête de ce projet en tant que directrice artistique. Elle s'appelle Dominique B. Marié et elle est avec nous. Elle est au bout du fil. Bonjour, Dominique.
Bonjour, Madame Denis.
Ça me fait bien plaisir d'être avec vous pour parler de Gauvreau, 100 ans, parce que c'est un événement. Et je me demandais pourquoi c'est important de souligner le centenaire de Claude Gauvreau.
Bien, pour nous, le lien de Gauvreau et du Jésus est assez fort parce que, bon, pour la petite histoire, Claude Gauvreau a étudié au Collège Sainte-Marie, qui était attenant au Jésus, donc a étudié le cours classique avec les Jésuites. Et donc, il a, dans ses cours de classe oratoire et tout ça, foulé les planches du Jésus. Il les a encore une fois foulées plus tard lors de la Nuit de la poésie. Il y a de ces pièces qui ont été montées au Jésus. Donc, le lien était très fort. Et on a aussi retrouvé à une certaine époque, il y a quelques années, une partie de son dossier scolaire. Donc, il y avait quelque chose pour moi que Claude Gauvreau, il est, bon, c'est un des auteurs que j'affectionne particulièrement, mais pour moi, il vit aussi dans les murs dans lesquels je travaille à tous les jours. Donc,
et justement, Dominique, on va l'écouter dans un petit extrait lors de la Nuit de la poésie qui se déroulait sur la scène du Jésus.
Et maintenant, Claude Gauvreau.
Mes apports à la Nuit de la poésie sont de diverses époques, mais ils sont tous à fort accent non figuratif. Le premier texte que vous entendrez de moi est de 1945. C'est un extrait des entrailles. En fait, il s'agit d'une pièce de théâtre, mais d'une pièce de théâtre sans personnage. Fatigue et réalité sans soupçon. Que laissa Kyrien Koblienis Jaboir, Velé Yoto Kobichunit Sableoko, Vénissir Shlam Kyrioti Kliko, Sanessa Velo Muchnaik Revoi, Karinaïn, Benessoir, Sedler, Achmatz. Crioun, Allégo, Amamor.
Il avait un langage bien à lui, ce Claude Gauvreau.
Oui, tout à fait.
Vous disiez que c'est un de vos écrivains préférés. Comment vous avez abordé la direction artistique de cet hommage à cet artiste qui est à part, là, inclassable?
Tout à fait. Ben, je crois que mon envie, à la base, j'avais, bon, en plus de souligner, bien sûr, son 100e anniversaire et de souligner une carrière qui est quand même, qui est particulière, tant sa carrière de poète et aussi l'homme, j'avais envie de mesurer aussi Gauvreau en 2025. Donc, est-ce qu'il touche encore les générations? Est-ce que sa parole, est-ce que ses textes ont encore une pertinence? On se questionne toujours en tant qu'artiste, est-ce qu'on est toujours pertinent? Donc, dans mes recherches, j'ai eu une équipe, une jeune compagnie de la relève qui est venue faire une résidence de création, ce qu'on offre depuis quelques années. Et eux travaillaient l'Asile de la pureté, qui sont allés présenter au Festival d'Avignon.
L'Asile de la pureté, qui est une pièce de théâtre de Claude Gauvreau.
Exact, tout à fait, qui est une pièce de Gauvreau. Donc, je me disais, ah, OK. Et donc, il y a encore de la jeunesse qui s'intéresse aux écritures de Gauvreau. Donc, j'avais envie de mêler ça dans le projet. Jeunesse, d'aller chercher aussi ceux qui ont déjà joué du Gauvreau, qui ont déjà travaillé du Gauvreau, de toucher les deux, puis aussi d'aller revoir certains documentaires, certaines pièces plus vidéo, cinéma, qui ont filmé Gauvreau ou on a filmé de ses œuvres. Donc, voilà.
Alors, la programmation s'articule en trois temps. Donc, trois rendez-vous?
Trois rendez-vous, cinq événements.
Cinq événements. Et ça commence le 30 octobre, c'est demain, avec l'Asile de la pureté, présentée par cette compagnie qui s'appelle Explo.
Exact, c'est une jeune compagnie de la relève.
Et puis, le 2 novembre, plein feu Gauvreau, qu'est-ce que c'est?
En fait, cette journée-là, on présente des extraits et des complets de certaines vidéos. Donc, on présente Claude Gauvreau poète, qui est un reportage, un documentaire qui a été fait par Jean-Claude Labrec. Ensuite, on a réussi à, grâce à la personne qui est responsable de la succession de Claude Gauvreau, Mme Janine Caro, qui nous a autorisé à présenter La charge de l'orignal et pormillade de Jean Salvi, qui est un téléthéâtre qui a été présenté dans les années 90 à Radio-Canada et qui maintenant ne circule plus. C'est impossible de le voir. Donc, on a la chance de pouvoir le présenter. Et on a aussi des extraits de chroniques de la nuit de la poésie. On hésitait à présenter des extraits de la nuit ou de chronique, mais comme on voit plus Gauvreau discuter dans les halles, dans le hall du Jésus, on trouvait que c'était quand même intéressant de le voir aussi dans son jour intellectuel qui parle avec les jeunes. Donc, c'est très intéressant.
Alors, le 2 novembre, on va voter, puis ensuite, on s'en va au Jésus.
Exact. Et c'est suivi d'un lancement de livre.
Ah oui?
Le lancement du livre Claude Gauvreau vivant. 1925-2025, si je vous nomme le titre au complet, de Thierry Bissonnette, qui a fait un travail formidable de recherche et qui est allé vraiment chercher des pièces d'archives et il a monté tout ce que c'était. Pas un roman, c'est vraiment un travail de recherche. Et c'est un livre touffu, là. Je pense qu'on est près du 400 pages, peut-être même un peu plus. Donc, ça va toucher sa vie, l'homme... Tout ce que Gauvreau a été. Donc, voilà, on fait ce petit lancement-là. Il y aura une petite conférence. Voilà. Donc,
le dimanche 2 novembre.
Gratuit. Ouais, oui, ça, le lancement est gratuit.
Et le gros événement, on parle de moment fort, là. Une soirée grand format, c'est Gauvreau 100 ans, point d'exclamation, du théâtre, de la littérature et de la musique dirigée par la metteur en scène ou metteuse en scène Lorraine Pintal.
Exact. Et juste avant, comme je disais, c'est en cinq événements, trois journées, cinq événements.
Oui.
On va avoir la compagnie Territoire 80 qui travaille avec la marionnette. Donc, en marionnette géante, on aura un petit déambulatoire procession sur la rue Sainte-Catherine qui va débuter vers 18h45 pour se terminer au Jésus dans l'église, un spectacle fixe. Et ensuite, on va avoir le cabaret à 20h.
Vraiment, vous le célébrez en grand, ce Gauvreau.
Quand même, oui. Puis c'est ça. On est dans les derniers mille. Il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de fébrilité.
Ça doit
se sentir dans ma voix. Mais on est très fiers. On est vraiment heureux de cette célébration.
Et Dominique, en préparant cet hommage, qu'est-ce que vous avez découvert ou redécouvert chez Claude Gauvreau qui vous a particulièrement ému, touché ou surprise?
Je me suis rappelée de l'époque où moi, j'ai découvert, ça m'a replongée en fait dans cette époque-là, où moi j'ai découvert Gauvreau quand j'étais jeune étudiante en création littéraire à l'UQAM et que j'arrivais avec toute ma candeur. Et je ne connaissais pas Gauvreau à cette époque-là. Et ben, c'est ça, on se retrouve plusieurs élèves et des professeurs qui connaissent bien leur littérature et qui nous partagent leurs auteurs préférés. Et on m'a présenté Gauvreau. Et ça a été un choc pour moi, vraiment. C'était ça a complètement changé ma perception de ce qu'était écriture à l'époque, de ce qui a été après ça, parce que j'ai aussi étudié en théâtre, de ce qui a été comment on joue, comment on interprète, cette espèce de liberté totale qu'on peut se donner,
oui.
Ou est-ce qu'on peut casser les moules, les barrières qui sont établies, même s'il y a des règles, ben le jeu, l'écriture, on est là pour les pousser plus loin. Donc ça a été longtemps avec moi. Cette pensée-là de me dire j'ai le droit de dépasser, d'être plus grande que nature. Voilà.
Mais Claude Gauvreau vient de quelle école? Où il a justement pris cette inspiration? Parce qu'on pense au, je sais pas, au dadaïsme, au surréalisme. Oui. Qu'est-ce qui fait que Claude Gauvreau était ce qu'il était sur une scène et dans son œuvre là, qui est complètement libre et pour certains incompréhensible?
Moi, j'ai l'impression qu'ils ont été influencés avec le mouvement automatiste qu'ils ont créé avec Paul-Émile Bourdieu et François Sullivan, Louise Renaud, Fernand Leduc, Pierre Gauvreau, son frère. Ils étaient influencés par les surréalistes d'André Breton en France.
Mm-hmm.
Et ils ont créé ce mouvement, les automatistes. Et après ça, bien sûr, avec ce mouvement-là qui voulait un peu, qui était un peu renier tout ça, qui se faisait à l'époque, et on casse les moules du clergé, on casse les moules de la ruralité, on veut démocratiser l'art et tout ça, qui a résulté en fait avec le manifeste du refus global en 1948. Donc, c'est sûr qu'à l'époque, ça a été la réception a été plutôt mitigée. On peut dire que ça a été l'embryon après ça de la Révolution tranquille. Voilà. Donc, il y a comme un beau leg qui s'est fait et cette influence-là de vraiment, c'est ça, changer les cadres.
Oui. Et Laure, j'ai entendu dire qu'à la première de La Charge de l'Orignal épormillable, il y a des gens qui sortaient, là, mais il n'y a pas eu beaucoup de représentations, hein? Et
non,
Claude Gauvreau s'en réjouissait presque?
Bien, je veux dire, je pense qu'il avait peut-être accepté ce côté-là, qu'il ne serait peut-être pas perçu favorablement par l'ensemble de la communauté artistique ou de la société, parce que ses idées différaient de ce qui était établi. Donc, je pense que on le sait à quelque part qu'on ne sera peut-être pas... on n'aura peut-être pas la popularité, ou je ne sais même pas s'il recherchait en fait cette popularité-là. Je pense que c'était un homme qui était très intègre et qu'il faisait ce qu'il devait faire. Et voilà, peu importe les conséquences d'une certaine façon.
Et un vrai artiste, quoi.
Exact.
Dominique, quel héritage souhaitez-vous transmettre aux spectateurs à l'issue de ces célébrations qui commencent demain?
C'est sûr que moi, j'ai envie qu'on se rappelle ça parce que, on 2025, les années ne sont pas simples en ce moment. Donc, qu'on se rappelle aussi qu'on peut, je le répète, mais qu'on peut pousser plus loin, qu'on peut révolutionner les choses et qu'il faut... faut sortir de certains marasmes, faut sortir de la noirceur pour éclater au grand jour. Et bon, se rappeler ce poète-là qui est encore, qui a changé tellement de choses
qui a eu une vie
pour la modernité du Québec. Donc, qu'on le garde en mémoire.
Tout à fait. Claude Gauvreau qui a une vie courte, une fin tragique et qui laisse une œuvre imposante et importante. Si on veut participer à l'événement, on procède comment?
Ben, il suffit d'aller sur le site du Jésus, donc le www.lejesus.com. Sur notre billetterie, toutes les informations sur chacun des événements sont là dans notre calendrier, si on souhaite acheter des billets. La procession, les marionnettes, c'est gratuit. Le lancement de Thierry Bissonnette, c'est gratuit, pardon. Et les autres événements, bien sûr, il faut acheter des billets.
Parfait. Au Jésus, qui s'écrit G-E-S-U. Oui. Accent grave. Alors, merci beaucoup, Dominique Bémarié, directrice artistique de l'événement Gauvreau 100 ans. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès et bravo pour cette initiative. Merci beaucoup.
C'est un plaisir. Merci de m'avoir accueilli.
Ça fait plaisir aussi.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
J'aime bien quand l'hiver ressemble à l'automne. Ouais, je sais comment ça sonne. Je te jure, mes intentions sont bonnes. Avec tout le mal que tu donnes, faut bien que des fois on se laisse étonner. Façon d'avoir du fun, inventeur du condom et du gun. Seul au parc national sur mon téléphone. Je comprends fucking rien à comment tout fonctionne.
La chanson Boost de Robert Robert.
Les ressources numériques offertes par nos bibliothèques publiques, on en parle avec Christiane Campagna, chargée de communication chez BiblioPresto. Bonjour Christiane.
Bonjour Hélène.
Rappelez-nous ce qu'est une ressource numérique.
Oui, ce qu'on appelle une ressource numérique, ce sont des services en ligne auxquels on a accès gratuitement grâce à notre abonnement de bibliothèque. Et l'offre varie, je vais vous en nommer plusieurs aujourd'hui, mais l'offre varie d'une bibliothèque ou d'un réseau biblio à l'autre. Alors aujourd'hui, on va commencer avec des ressources qui vous permettent de voir de la vidéo. C'est possible de voir des films, des documentaires, des concerts. Quand on sait ce que coûtent les plateformes de streaming maintenant, là, c'est vraiment une offre intéressante.
Parce que c'est gratuit, là.
Oui, oui, ça vient avec votre... C'est pas gratuit pour votre bibliothèque, mais ça fait partie... Pour vous, comme abonné, vous y avez accès gratuitement. Donc, parmi celles que votre bibliothèque pourrait avoir, il y a Midici.tv, qui est un catalogue de vidéos de musique classique, opéra et danse pour aller au concert dans son salon.
Medici.tv.
Voilà. Il y a My Film Friend, qui est un service de vidéos sur demande qui donne accès à des films, des séries, des concerts, des documentaires primés.
Ah oui.
Il y a Tank, qui est une plateforme de diffusion dédiée au cinéma documentaire. On trouve plus de 300 documentaires par année sur la plateforme, mais seulement 40 à la fois. Donc, il y a une rotation sur la plateforme. Chaque semaine, là, 5 nouveaux titres arrivent sur la plateforme.
Ah, oh, c'est intéressant.
Et ils restent pour environ 2 mois.
Tank, T-E, Tréma, N-K. Oui. Je vais appeler quand ce n'est pas nécessairement oui. évident.
Mais de toute façon, il ne faut pas aller au site web directement. Il faut passer par votre bibliothèque là, okay. de manière générale pour y accéder parce que sinon, vous avez l'entrée régulière d'un utilisateur payant. Il faudrait rentrer d'autres sortes d'accès.
Très bien.
La voûte.tv, c'est une plateforme de diffusion en ligne d'archives audiovisuelles qui est consacrée à l'histoire du Québec. Alors, ils ont contacté, ils ont ramassé... Vous savez, tous ces films en 8 mm que nos familles ont fait, moi, c'était mon oncle Rosaire chez nous, là. Bien, ils en ont rassemblé plein pour créer cette banque d'images-là.
On a un point commun. Moi aussi, j'ai un oncle Rosaire qui n'est plus, mais que j'ai
un point commun qu'on ne savait même pas. Il y a la plateforme Canopy, qui est une plateforme de streaming de films. On y trouve des fictions, des documentaires, des séries aussi. Ça aussi, c'est accessible gratuitement avec votre carte de bibliothèque. Et pour celle-ci, je peux l'affirmer sans me tromper, il y a l'application pour mettre sur votre télévision intelligente. Alors, pas besoin de passer par une application de casting ou Apple TV.
Oui, oui.
Alors, il y a aussi d'autres plateformes là, sur lesquelles il y a de la vidéo... Et de la musique et des livres audio, ça dépend parfois du, je trouve pas le mot français, mais du forfait, du package que votre bibliothèque a pris par rapport à ces ressources-là, si elle les a. Alors, parmi elles, on trouve Oopla et Naxos. Alors, je vous recommande encore une fois de parcourir le site web de votre bibliothèque ou, quand vous visitez, là, quand vous allez faire un tour, demandez au personnel c'est quoi les ressources numériques disponibles. Ça va leur faire plaisir de vous en parler.
Alors, faut pas gêner. Et Christiane, est-ce qu'il est possible de suivre des cours en ligne?
Oui, et ça, c'est bien pratique pour se perfectionner, là, améliorer son CV ou pour se divertir, apprendre pour le plaisir. Il y a la fameuse plateforme TapTouche là, pour améliorer son doigté et sa rapidité au clavier qui est disponible en passant par diverses bibliothèques. Il y a toutapprendre.com qui offre des tutoriels vidéo qui fonctionnent par module. Ça permet de s'initier à des langues, à de la bureautique, au multimédia, à différentes plateformes informatiques. Et dans le même genre, il y a Skileos aussi qui offre un catalogue de cours et de formations vidéo qui sont présentés par des experts. Là, ça couvre encore une fois des domaines variés, le bien-être, les loisirs, les langues. C'est bon pour exercer son cerveau pour qu'il reste en santé longtemps. Il faut faire de l'exercice physique, mais ouais. Ces plateformes-là permettent d'exercer le cerveau. Et il y a LinkedIn Learning aussi, dont je sais qu'elle est disponible via BNQ. On y trouve des formations, encore une fois, utiles pour s'auto-former, peut-être améliorer vos chances d'avoir une promotion ou juste augmenter votre coffre à outils. Là, moi, j'y ai suivi une formation pour me perfectionner avec la plateforme Canva de graphisme, par exemple. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut trouver sur cette plateforme qui, normalement, est payante. Alors, si votre bibliothèque a cette plateforme, ça vous donne la chance de l'utiliser.
Pourquoi pas ne pas en profiter? Est-ce qu'on trouve des ressources d'apprentissage pour les jeunes?
Oui, on trouve aussi plusieurs ressources qui peuvent accompagner les enfants pendant l'année scolaire, mais surtout contribuer à diminuer la glissade de l'été. La glissade de l'été, Hélène, c'est un phénomène qui fait que les enfants perdent des acquis pendant les vacances scolaires. Et plus c'est des enfants qui ont des difficultés à l'école, qui ont des troubles d'apprentissage, plus il y a des chances que ça se produise. Mais c'est plate de dire les enfants vont faire des cours pendant l'été. Mais les enfants aiment les écrans. Alors, des petits jeux peuvent servir à apprendre. Là, parmi ceux-là, vous allez voir ALEC, qui est un jeu pour développer l'autonomie, les connaissances en français et en mathématiques. Il y a Bibliodyssée, qui est une plateforme qui offre des livres en format Frog, qui sont un format conçu spécialement pour les enfants qui ont des troubles de lecture, comme la dyslexie. Ça rend la lecture moins ardue, donc peut-être plus divertissante en même temps. Et du Média, des ressources pour l'apprentissage des sciences. Le Curieux, ça c'est fantastique, un journal québécois, numérique québécois conçu par des journalistes, des graphistes, des enseignants, et ça explique l'actualité locale et internationale aux jeunes. Peut-être les parents aussi aller voir quand on ne trouve pas les bons mots pour expliquer des événements d'actualité. Mazam est une application pour initier les jeunes enfants au bienfait de la musique. Et puis Slice Fractions et Mathmakers, qui sont des plateformes pour pratiquer ses mathématiques tout en s'amusant. Et si, j'aurais aimé savoir ça
Bien sûr, pendant vos vacances scolaires. Et finalement, on trouve des outils pour ceux et celles qui veulent mieux connaître leurs ancêtres.
Oui, plusieurs bibliothèques offrent des bases de données et d'autres outils utiles là, pour les généalogistes et les archivistes amateurs. Les accès, par exemple, à des certificats de mariage, des choses comme ça, pour remonter l'histoire de vos grands-parents. Alors, renseignez, le mieux, c'est de vous renseigner auprès de votre bibliothèque et de son personnel. Ils vont vous dire lesquels ils ont. Et pour conclure, ce que je dirais à vos auditeurs, c'est utilisez-les. Parce que comme dans tous les domaines, quand vient le temps de décider des budgets, les bibliothèques, elles se fient sur des statistiques d'utilisation des services qu'elles offrent à leurs abonnés. Alors, c'est nécessairement les plus populaires qui risquent de rester.
On garde ça en mémoire. Christiane Campagna, chargée de communication chez Bibliopresto. Bibliopresto, qui est un organisme qui appuie les bibliothèques en leur offrant des services numériques. Un grand merci.
Je vous en prie.
On joint maintenant Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse pour sa chronique des nouvelles du Canada francophone. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
On y va avec l'éveil identitaire qui s'essouffle malheureusement à l'âge adulte. C'est un des titres de Franco-Presse.
Oui, c'est un événement il y a quelques semaines qui nous a fait nous poser la question. C'est que le fondateur de l'entreprise Le Réveil, qui est une entreprise franco-ontarienne, annonçait la fermeture de son aventure. Il l'avait créé en 2015. Son nom, c'est William Burton. Il avait fondé Le Réveil avec l'objectif de transmettre la fierté d'être francophone en milieu minoritaire aux plus jeunes. Le projet avait connu pas mal de succès. Il y avait des pages web, il y avait une chaîne YouTube là, avec plusieurs vidéos. Il avait pu se construire une petite équipe. Il avait visité plusieurs écoles à travers le pays pour donner des ateliers, puis motiver les jeunes francophones. Dans son message qui annonce la fermeture, William Burton explique qu'il s'est rendu compte qu'au fil du temps, que maintenir cette fierté-là après le secondaire, c'était difficile. Beaucoup de jeunes perdent leur attachement à la francophonie quand ils atteignent l'âge adulte, faute d'un système qui leur permet de continuer à construire leur identité autour de la francophonie après le secondaire. La situation l'a découragé un peu. Il a décidé de passer à autre chose tout simplement en publiant un peu ses réflexions. Puis, on a parlé à d'autres personnes, pas seulement à lui. Et il y a d'autres chercheurs qui soutiennent un peu ses réflexions, qui disent qu'il y a un peu raison. Les écoles sont souvent perçues comme des environnements contraignants où le français est imposé et où l'anglais est un peu désapprouvé. C'est pas la meilleure façon de donner un élan de fierté à la francophonie. Puis, c'est plutôt les activités parascolaires, les activités autour de l'école, à l'extérieur des salles de classe, on va dire, ce qui se passe à l'extérieur, puis même à l'extérieur de l'école, qui permet vraiment de construire son identité et une fierté francophone. Tout ça, ça fonctionne bien à l'élémentaire et au secondaire parce qu'il y a des systèmes en place. C'est plus facile d'organiser ce genre de réseau-là, mais ça devient plus compliqué qu'on arrive au collège ou à l'université. Surtout que, à Franco-Presse, on a publié un article aujourd'hui, je vais en reparler la semaine prochaine, qui parle de combien de jeunes qui ont étudié en français au secondaire vont finalement à l'école francophone au post-secondaire, c'est pas tant que ça. Donc, on perd le contact avec la francophonie quand on arrive là pour plusieurs. Puis, quand on trouve un emploi, souvent, bien, ils se retrouvent dans un emploi où ils parlent en anglais, donc la langue anglaise reprend le dessus. La solution est claire pour les gens qui en ont parlé, pour créer un écosystème pour les adultes, mais c'est pas simple à réaliser. Il y a tout de même quelques pistes possibles, comme des programmes de leadership et des projets d'engagement social qui pourraient être gérés par la Fédération de la jeunesse canadienne-française.
L'Acadie Nouvelle, maintenant, pose la question, faut-il ressusciter le Parti acadien?
Le Parti acadien existait de 1972 à 1982. Il est né du désir des Acadiens d'avoir la balance du pouvoir dans la législation du Nouveau-Brunswick. Malheureusement, ils n'ont jamais réussi à faire élire un seul député. Il y en a un qui est, il y a un candidat qui est passé proche une fois lors d'une élection, mais il est à 170 voix d'être élu. Pour discuter de la question, ils ont invité trois panélistes lors d'un événement à Moncton. Il y avait un historien, une ancienne chef du Parti acadien, entre autres. L'historien Léon Thériault croit que si le Parti acadien avait réussi à s'implanter un peu plus et à faire élire au moins un membre au Nouveau-Brunswick, les Acadiens auraient aujourd'hui un peu plus de pouvoir dans la province, plus de contrôle sur quelques institutions et la langue française serait plus importante dans la gestion publique et pour l'immigration. Pour les deux autres participants, la réponse était claire. Oui, il faudrait faire renaître le Parti acadien parce que l'Acadie n'a jamais eu autant besoin d'un parti acadien pour qu'elle s'épanouisse.
Et un bâtisseur franco-ontarien n'est plus. Triste nouvelle.
Oui, triste nouvelle qui est tombée hier. On a appris qu'avec Bernard Grandmaître est décédé. M. Grandmaître s'est surtout fait connaître comme politicien provincial en Ontario, mais aussi comme celui qui a fait adopter la loi sur les services en français en 1986. Avant d'être en politique provinciale, il a été éducateur, il a été maire de Vanier, qui est une banlieue francophone juste à côté d'Ottawa. Il a été ministre des Affaires municipales, ensuite ministre du Revenu, tout en gardant ses fonctions de ministre délégué aux Affaires francophones pour l'Ontario. Tous ceux qui l'ont connu nous disent qu'il était que c'était un politicien brillant et tenace. Il ne lâchait pas le morceau.
Alors, on présente nos condoléances à sa famille et à tous ceux et celles qui l'ont aimé. Maintenant, le droit nous parle de jeunes qui réclament une plus grande place au Congrès de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario.
C'est un petit lien avec le premier texte. La semaine dernière, c'était le Congrès annuel de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Il y avait plusieurs sujets qui ont été abordés, évidemment, notamment, on l'a planifié, il va y avoir des états généraux de la francophonie ontarienne, c'est-à-dire c'est une période d'à peu près un an où on va évaluer la situation de la langue dans la province. Cependant, il y a un point inattendu qui est apparu pendant une des conférences, un des ateliers, c'est la très faible présence des jeunes secondaires et des 18 à 25 ans lors de l'événement lui-même, lors de ce congrès-là la semaine dernière. Il y avait seulement trois représentants de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne qui représentent les jeunes secondaires, puis ont exprimé leur regret face à cette situation. C'était deux, trois jeunes de l'Est de l'Ontario, donc il n'y en avait aucun du Nord et du Sud pour représenter les points de vue de ces régions-là. Puis étant donné qu'on discute de l'avenir de la francophonie dans cet événement-là, c'était à leurs yeux assez grave, il n'y en est pas plus que ça. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario a accepté sa part de responsabilité là, et a répondu qu'ils envisageaient revoir leurs pratiques pour permettre une plus grande participation des jeunes à l'avenir à leurs événements.
Une nouvelle qui concerne une radio, La Liberté, c'est dans La Liberté qu'on en parle, une tour qui coûte cher à Envol 91.
C'est une station de radio communautaire du Manitoba qui va un peu tester un article de la nouvelle loi sur les langues officielles. L'article stipule que la Société Radio-Canada doit, dans sa mission, favoriser l'épanouissement des minorités francophones du Canada. Radio Envol 91 cherche à en faire depuis un bout de temps à négocier ou renégocier à la baisse le coût de location d'une antenne de diffusion qui appartient à Radio-Canada, mais qu'eux louent l'espace pour diffuser leur programme. Ça leur permet d'atteindre le territoire plus au sud-est du Manitoba. La radio a enregistré un déficit l'année dernière et l'allocation de cette antenne représente 7 % de son budget environ, donc une réduction du coût de la création lui permettrait d'assainir un peu ses finances. Il y a des juristes qui estiment que la démarche de la radio d'utiliser cette section-là, cet article-là de la loi sur les langues officielles est légitime. Ça a des chances de fonctionner. Il reste juste à voir si l'argument va réussir à convaincre la société d'État.
On leur souhaite. Par ailleurs, Ottawa rend son quota d'immigration au territoire du Nord-Ouest.
Le gouvernement fédéral et celui des territoires du Nord-Ouest se sont entendus pour établir le nombre de nouveaux résidents permanents que le territoire pouvait accueillir. En janvier cette année, en fait, le fédéral avait décidé de couper de moitié ce nombre-là. Donc, on passait à 150 nouveaux résidents permanents par année. C'est une décision qui avait été critiquée en raison de la situation et des besoins uniques du territoire. Ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est qu'ils vont pouvoir maintenant accueillir 300 résidents permanents au cours de l'année. Même pour les francophones, c'est une bonne nouvelle puisque la baisse totale diminuait aussi le nombre de francophones qu'on pouvait accueillir. Le retour à 300 places donc donne plus de place pour les francophones. La Fédération franco-ténoise dit que c'est seulement une étape et non pas la fin du combat parce que maintenant, oui, OK, tant mieux, on peut accueillir des nouveaux arrivants, mais le contexte est difficile quand même à cause de l'accès limité au logement puis les services encore un peu difficiles à obtenir pour les nouveaux ceux qui s'établissent là-bas.
Et pour terminer, à quelques jours de l'Halloween, mauvaise année pour les citrouilles.
La culture des citrouilles a été difficile cette année dans tout l'Ontario, mais pour des raisons différentes selon les régions. Dans le sud et l'est, c'est la sécheresse qui fait que les citrouilles sont plus petites cette année. Ils ont eu moins d'eau, donc ils ont un peu moins grandi. Il y a un agriculteur qui raconte qu'il vend toujours plus de citrouilles qu'il en cultive, donc il doit en acheter d'un autre fournisseur. Et cette année, presque toutes les citrouilles qu'il a vendues venaient de ce fournisseur-là. Heureusement, la taille des citrouilles ne change pas leur goût, donc c'est quand même bonne.
Dans l'Ontario, oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font des desserts avec la citrouille, qui font aussi des potages délicieux.
Effectivement, je connais un restaurant qui fait une excellente soupe à la citrouille.
Mmh.
Dans le nord de l'Ontario, c'est le contraire. Il y a eu trop de pluie et il y a eu du gel trop tard en juin et trop tôt en septembre. Donc, le temps que les citrouilles ont eu pour grossir, pour venir à maturité, n'était pas assez long. Puis c'est dommage selon la ferme Grey Wolf parce qu'il y a un regain de popularité, justement, on parlait de nourriture, pour la tarte à la citrouille autour de l'Action de grâce, entre autres, depuis quelques années. Puis fait que leurs citrouilles sont pas très bonnes, sont pas aussi bonnes pour faire à manger, mais elles font quand même des bonnes décorations d'Halloween.
Vous avez bien raison. Merci, Julien. Et est-ce que vous passez l'Halloween, vous, cette année?
Ah oh non, mes enfants sont trop vieux pour ça.
Ah oui? Puis les costumes, les parties costumées, c'est aussi du passé?
Oui, un peu. J'ai personne qui en organise autour de moi.
Bon. Alors là, vous avez lancé le message. On ne sait jamais. Vous allez peut-être avoir une invitation. Peut-être. Merci, Julien. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Compliqué de vivre sans déraper. J'ai beau suranalyser, je pense toujours au passé. J'essaie de revisiter ces traumas qui m'ont habité. Dites-moi sur quel clou rouillé je dois cesser de cogner. Je me suis menti à moi-même plus qu'à n'importe qui. Je réalise que je suis l'enfant que je n'ai pas guéri. On ne sait jamais. J'en avais vraiment assez. Pourquoi vivre à moitié quand le cœur sait tout donner? J'apprends à tout décoder. L'erreur cache une leçon. Parfois elle me fait pleurer. C'est signe de guérison. Je me suis menti à moi-même plus qu'à n'importe.
Avait une chanson d'Élie Rose.
Dans la presse, sous la plume d'Hélène Barry, après avoir pesé le pour et le contre, la Banque du Canada a décidé de réduire encore une fois son taux directeur de 2,5 % à 2,25 % son niveau le plus bas depuis 2022, compte tenu de la faiblesse actuelle de l'économie et du fait que l'inflation devrait rester proche de la cible de 2 %. Le conseil de direction a décidé de réduire le taux directeur de 25 points de base, a fait savoir la Banque centrale. Un impact catastrophique pour le Salon du livre de Montréal, la possible grève des employés d'entretien de la Société de transport de Montréal, la STM, du mois de novembre, aurait un impact catastrophique sur le Salon du livre de Montréal, plaide son directeur général. Même avec le métro et les autobus qui seraient en fonction aux heures de pointe, les impacts d'une future grève à la STM aurait des répercussions monstres sur l'accès au public et particulièrement des jeunes au Salon du livre qui se tient du 19 au 23 novembre au Palais des congrès de Montréal. On veut un dialogue qui permettrait éventuellement de faire une suspension temporaire des moyens de pression pendant la durée de l'événement, insiste le directeur général du Salon du livre de Montréal, Olivier Goujon. En 2024, le Salon du livre a accueilli plus de 92 000 visiteurs et prévoyait en attirer plus de 100 000 cette année, dont 23 000 jeunes. Ce sont 75 % des visiteurs qui utilisent les transports en commun pour se rendre à l'événement et 60 % des jeunes. Plusieurs écoles ne pourront pas trouver de transport à la dernière minute, croit Olivier Goujon. La programmation du Salon du livre se déroule sur 5 jours de 9 h à 21 h jusqu'à 20 h le mercredi et jusqu'à 17 h le dimanche et de nombreux événements sont organisés hors des heures de pointe. On a plein de mesures cette année pour faire venir les gens tout au long de la journée, indique le directeur général. Les billets sont à 50 % en soirée, par exemple. Le directeur général du Salon du livre de Montréal a communiqué avec les instances municipales ainsi que la STM et le syndicat des employés d'entretien, mais aucune solution n'est sur la table pour l'instant. Aux questions de la presse, la STM a expliqué par courriel que c'est au tribunal administratif du travail à établir si le niveau de service essentiel proposé permet d'assurer la sécurité de la population. Une décision à cet effet devrait être rendue dans les prochains jours. J'espère que vous pourrez profiter de cette belle journée, parce que demain, on annonce plutôt du gris et de la pluie. Merci beaucoup, Mathieu Tessier, qui s'en fait pas, lui, avec la vie. Beau temps, mauvais temps, il est au rendez-vous. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. À demain.